Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux qui la font. Cette semaine, c'est chez M, un concept store parisien du 9e arrondissement que je me suis rendu. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est sa fondatrice, Géraldine d'Alban Morenas, que je suis allé voir. Pas pour parler de décoration, mais bien de littérature, d'amour, et de son premier roman, On ne meurt pas d'amour, qui est paru chez Plon. Après avoir été conseillère politique, après avoir géré une agence de communication et même été présentatrice, Géraldine a publié ce livre à l'occasion de la rentrée littéraire. On ne meurt pas d'amour, c'est l'histoire de deux voisins. Elle vient d'emménager avec son futur mari, lui vit avec sa femme et sa fille au deuxième étage du bâtiment B. Et c'est l'histoire d'un coup de foudre interdit, celui devant lequel on ne peut pas lutter et qui va projeter la relation en même temps que le lecteur vers une fin. Mais quelle fin ? Je vous laisserai le découvrir par vous-même. En attendant, avec Géraldine, on a parlé de la naissance un peu particulière de ce roman, de la manière dont elle a décidé d'écrire l'amour, mais aussi de François Truffaut. Et oui, bonne écoute. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Alors, ce roman, on ne meurt pas d'amour, il a une histoire assez particulière, puisque tu l'as écrit il y a 15 ans. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce bouquin ?
Alors effectivement, c'est un livre qui a une histoire un peu particulière parce qu'il a été écrit il y a 15 ans et en fait, il a été perdu. Je l'ai écrit et puis il y a 15 ans, on s'en souvient pas, mais c'était l'époque où on n'avait pas encore le cloud. Alors on n'avait pas tout qui était sauvegardé
bien
tout le temps. Et du coup, on mettait nos documents précieux sur des clés USB qu'on mettait dans des pots à crayons sur le bureau et qu'on perdait. Ouais. Et puis quand j'ai commencé à écrire sur Instagram, il y a un an, il y a une scénariste qui m'a contactée et qui m'a dit... Vous devriez vraiment écrire, parce que j'avais commencé à attaquer le deuxième, sans imaginer une seule seconde publier le premier. Et je lui ai dit, ah bah c'est drôle, parce que vous êtes scénariste, et moi j'ai écrit un livre il y a assez longtemps, et on m'a toujours dit que ça ferait un très bon film. Il n'a jamais été publié, mais on m'a toujours dit ça, et elle m'a dit, envoyez-le-moi. Et du coup, j'ai commencé à le chercher, et je ne l'ai pas trouvé. Et donc, j'ai cherché dans les ordinateurs, dans la cave, j'ai ressorti des vieux trucs, dans l'ordi de mon fils, dans mes trucs. Et il était nulle part, j'ai checké tous mes mails et tout ça. Et je me suis dit, ben, ce livre ne devait pas sortir. Et donc, j'ai laissé tomber. Et puis, quelques mois plus tard, en mars de cette année, je suis partie à Marrakech, comme tous les mois. Et je pars avec une amie qui m'appelle quelques jours avant en me disant, écoute, je viens d'arrêter mon taf, je sais pas trop quoi faire. Je déprime un peu, est-ce que je peux venir avec toi ? Je dis, ouais, bien sûr. Et on dîne chez une amie à Marrakech, on parle de cinéma. Et du coup, je parle de cette scénariste et je parle de ce livre que je n'ai pas retrouvé. Et mon amie qui est là me dit... Mais je l'ai, moi, ce livre, tu me l'as envoyé par mail.
C'est hyper drôle.
Et il y a des années, et elle check, elle se connecte. En plus, on avait bu deux, trois verres de rouge. Et
évidemment.
Elle se connecte à minuit et demi sur son téléphone au Wi-Fi à Marrakech, parce qu'on n'a pas de 4G. Et elle cherche, et elle trouve un mail de 2004, avec le bouquin en pièce jointe.
Hyper drôle.
Et elle me le transfère. Je le transfère tout de suite à la scénariste en lui disant, bon voilà, j'ai bu un coup de trop, donc je vous le transfère.
Ah ouais, t'as pas du tout...
Non, je l'ai pas relu et tout, je me suis dit, si je le relis et tout, c'est mort. Donc là, je dis, non, je l'envoie tout de suite, comme ça, je réfléchis pas.
Ok.
Et elle m'a dit, elle m'a répondu du tac au tac à 1h du mat en me disant, écoutez, je suis en train d'écrire mon nouveau film, j'ai pas trop le temps, mais je jetterai un œil. Et puis j'avais un deuxième mail à 6h du mat où elle me disait, ce livre est dingue, il faut le publier.
Et donc ça, c'était une scénariste.
C'était une scénariste et qui voulait juste m'encourager, quoi, qui avait pas de voilà, que je ne connaissais pas en plus. Hein, c'était juste des fois vous avez des petits anges gardiens comme ça ou des petites étoiles qui arrivent dans votre vie. Et puis du coup, je fais un post sur Insta le lendemain en racontant ce dîner. Et
ouais,
le truc improbable
vie,
quand même. Voilà, cette nana, cette amie qui retrouve ce bouquin 1h30 du mat sur un mail de 2004. Et là, je reçois plein de messages et notamment plusieurs messages d'éditeurs. Qui me disent, mais en fait, on vous surveille depuis quelques temps. Et en fait, ils m'avaient un peu mis sous surveillance comme ça, parce qu'ils se disaient, tiens, il faut la suivre, on va peut-être arriver à en faire un truc un jour. Et donc, je reçois des messages d'éditeurs qui me disent, on voudrait vraiment le manuscrit. Et là, je me paye le luxe de répondre à tout le monde, non, je ne sais pas.
C'est une espèce de luxe, ouais,
c'est un luxe total. Et je leur dis, non, mais attendez, j'ai pas du tout réfléchi, moi, j'ai jamais voulu publier ce livre.
T'écrivais le deuxième.
Je sais pas, et puis il y a Sophie Charnavel de Plon qui me renvoie un message une semaine après en me disant, Géraldine, j'aimerais vraiment que vous m'envoyiez ce manuscrit. Et puis elle m'envoie un troisième message en me disant, Géraldine, j'ai toujours pas reçu votre manuscrit. Et là, j'ai dit, ok, bon, je vous l'envoie. Et voilà, et donc je lui ai envoyé et elle m'a rappelé le lendemain en me disant, j'étais au ski et j'ai décroché. Elle m'a dit, écoutez, Je suis sous le choc, je ne sais pas quoi vous dire, mais je sais juste une chose, c'est que je veux publier ce livre.
Et donc toi, tu ne voulais pas le publier en fait ?
En fait, ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est que j'y avais jamais pensé.
Okay.
Voilà. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais dit, je vais publier ce livre. Je l'avais écrit à l'époque, j'avais quelques potes qui l'avaient lu. Et puis, je pense qu'à l'époque, et en fait, il n'aurait peut-être pas marché. Je pense que finalement, il sort au bon moment. Ouais. Je ne vais pas du tout dire qu'il était trop novateur parce que ça serait ultra prétentieux, mais peut-être qu'il a un ton et un rapport au désir et plein de choses qui font qu'il y a 15 ans, il n'aurait peut-être pas eu la normalité qu'il a aujourd'hui.
Il y a aussi le fait que les personnages, on en reparlera après, mais s'envoient des messages. Donc il y a quand même l'apparition du monde virtuel, mais c'est aussi là que je voulais te dire, est-ce que tu as fait beaucoup de réécriture ? Parce qu'en 15 ans, on n'a pas envie d'écrire
oui,
la même chose nécessairement.
Exactement. Alors... D'abord, c'est très drôle parce que quand je l'ai relu la première fois avant de l'envoyer à Sophie Charnavel, à Plon, je l'ai relu dans le train en allant au ski en 5 heures. Et puis, je suis arrivée et je lui ai envoyé, je lui ai dit, écoutez, je vous l'envoie comme ça parce qu'il n'y a rien à changer. Et, okay. Et elle l'a relu et elle m'a dit, moi, je vais faire quelques corrections très mineures d'orthographe, de syntaxe, de répétition,
oui,
mais effectivement, il n'y a rien à changer. Et puis après, on a signé le contrat. Et quand on a signé le contrat, je me suis dit... donc là, je vais commencer quand même à le relire vraiment. Parce que là, ça veut dire qu'il va vraiment sortir. Donc
il
faut quand même que je réfléchisse à deux, trois trucs. Et en fait, je l'ai beaucoup réécrit.
Okay.
Je l'ai beaucoup réécrit. D'abord, je l'ai sorti de l'époque. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus... Le manuscrit original était beaucoup plus ancré dans les années 2000. Et j'avais pas envie, enfin je trouvais que ça apportait pas grand chose en fait au livre de s'ancrer dans cette époque-là.
Ouais, tu
donc,
préférais le rendre plus contemporain.
Ouais, j'ai enlevé des références en plus que seul. C'est un peu la chanson de Delerme, les filles de 1973 pouvaient comprendre, c'est-à-dire pas
après,
toi.
Après ça peut marcher, mais c'est pas moi, c'est sûr.
Mais les références à Delarue, à Dorothée, enfin des trucs qui sont complètement générationnels, mais je trouvais que ça apportait une couleur à l'histoire qui n'avait pas forcément d'intérêt.
Ouais.
Et puis après, je l'ai réécrit sur le style. C'est-à-dire qu'en 15 ans, l'écriture, elle change, elle évolue.
Toi, la première, en fait.
Ouais, et je pense qu'elle s'améliore, d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup retouché le style, j'ai beaucoup réécrit de choses. J'ai beaucoup réécrit le début, que je trouvais dans la version originale pas assez fort, pas... Voilà. Et puis, donc oui, l'histoire n'a absolument pas changé. C'est-à-dire la trame, l'histoire n'a absolument pas changé. Mais en revanche, sur l'écriture, je pense qu'il y a eu une vraie évolution. Okay. Et je pense que le deuxième sera d'ailleurs sur l'écriture très différent. Parce que même si on réécrit, vous avez quand même une base qui fait que vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez.
Oui.
Alors que le deuxième, il est écrit aujourd'hui. Et du coup, effectivement, je pense que l'écriture, elle évolue. Et je crois qu'elle s'améliore, en fait.
De fait, ok. Mm. Alors, ce livre, c'est une rencontre qui rend ma boule, qui fait faire tout et n'importe quoi, du plus simple au plus fou, et où la seule chose qui importe, c'est d'être ensemble. En soi, c'est une histoire relativement universelle. En tout cas, j'imagine que tu l'as pensé parce que ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que c'est pour ça que les personnages n'ont pas de prénom? Et sinon, pourquoi ils n'en ont pas?
Je dis souvent, il y a beaucoup d'auteurs ou d'écrivains qui, quand ils écrivent, vu que c'est leur métier, ils ont une approche professionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir à la structure, ils vont réfléchir aux caractéristiques des personnages, au caractère des personnages, ils vont réfléchir au déroulement du livre et tout ça. Ils vont faire un plan, ils vont avant de commencer à écrire. Alors moi, j'écris pas du tout comme ça. J'écris tout le temps, partout, surtout, n'importe quoi, dans le métro, dans le taxi, le soir, le matin, sur mon ordi, à l'aéroport, dans l'avion. Enfin, je veux dire, j'écris un peu comme je respire. C'est un truc assez animal, en fait, assez
charnel.
C'est
pas nécessaire d'être publié pour écrire. Hein,
ouais, exactement, bien sûr.
Ouais.
Et du coup, ce livre, quand je l'ai écrit, j'ai écrit comme tout ce que j'écris. C'est-à-dire qu'il est sorti, comme ça, et j'ai pas du tout réfléchi à comment est-ce que je vais le structurer. Est-ce que je donne un prénom ou pas au personnage? En fait, il a été écrit comme ça. Et une fois qu'il a été écrit, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de prénom. Je pense qu'il n'y a pas eu de réflexion sur cette volonté-là, ouais. Mais du coup, a posteriori, dans l'analyse, je pense que... Alors déjà, moi, je n'arrive pas du tout à écrire avec le « je ». Déjà, j'ai vachement de mal à parler. Déjà, quand je fais mes vidéos sur Instagram et même sur le livre. Alors, regarde, la boutique, on est une équipe, mais le livre, c'est vraiment moi. Et même le livre, j'arrive pas à dire, par exemple, on est nominé pour le premier roman. Je dis, l'autre jour, j'ai fait une vidéo en disant, on est dans la shortlist du premier roman.
Et il y a le plein résultat, de... c'est quoi? C'est le 7?
C'est le 6 novembre.
Le 6.
Et je dis, on est nominé pour le premier roman. Et du coup, il y a plein de followers qui m'ont dit, mais Géraldine, vous êtes nominée pour le premier roman. Et je dis, mais non, mais j'y arrive pas, en fait. C'est une espèce d'aventure collective. Donc, en fait, on est tout ensemble nominés pour le prix du premier roman.
Et bah justement, comment tu expliques qu'autant de gens se soient emparés de ce livre? Il y a le facteur Instagram, dont j'aimerais d'ailleurs que tu nous parles un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui se joue dans ce livre avec les gens? Pourquoi tout le monde s'en empare?
Alors, je finis juste sur l'histoire de il et elle. Parce que du coup, juste pour répondre à ta question, du coup, je pense aussi que par rapport aux écrivains qui réfléchissent à une définition des personnages, moi, si c'est pas un récit autobiographique, ça reste un roman, j'y ai mis plein de moi, d'expériences que moi j'ai vécues, etc. Et du coup, je pense que je ne veux pas lui donner mon prénom parce que c'est pas le cas et que c'est pas purement autobiographique,
tout simplement.
Mais je n'arrive pas non plus à lui donner un autre prénom. Parce que j'aurais l'impression qu'on me vole quelque chose.
Qui... Okay, ouais, quand même
et je pense que c'est
évidemment.
Pour ça, voilà. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à leur donner un prénom. Mais du coup, ce truc de il et elle, je pense que c'est une des raisons qui ont fait que les lectrices, elles se sont autant emparées du roman. Parce que elles ont été très nombreuses à me dire, sur les 4-5 premières pages, c'est extrêmement déroutant. Et il y a un moment où on oublie, en fait, parce qu'en fait, on n'est pas, au début, on se dit, on va être complètement paumé. Et finalement, c'est tellement un huis clos entre deux qu'il n'y a pas d'autres personnages qui interviennent. Donc, on n'est pas perdu du fait qu'il n'ait pas de prénom. Et ça nous permet, en fait, d'être il ou elle. Parce qu'ils n'ont pas de prénom, donc ça peut être soi-même.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'universalité.
Ouais. Et du coup, je pense que ça a fait qu'elles se sont complètement plongées dans l'histoire et qu'elles ont eu l'impression, alors, pour beaucoup, de revivre leur histoire, leur propre histoire. Pour d'autres, de dire... Putain, j'ai jamais vécu un truc pareil ou je serais jamais capable de vivre un truc pareil. Et du coup, je le vis
par procuration,
mais en lisant un bouquin, ce qui est quand même l'essence même en fait des bouquins, quoi, de vous faire vivre une histoire. Donc voilà. Et donc ça, c'est la première chose pour laquelle elles se sont emparées du bouquin comme ça. La deuxième chose, je pense, c'est que je crois que j'ai créé en 2 ans, involontairement là aussi, parce que ça n'a pas été calculé, un lien... Et souvent, je dis, c'est pas de la com, c'est pas du pipeau et tout, parce que de toute façon, on peut pas être tous les jours sur les réseaux sociaux et pipoter. Moi, je suis en vidéo toute la journée. Si je joue un rôle toute la journée, il y a un moment, ça craquerait,
ça
se verrait,
beaucoup,
mais bien sûr.
Ouais.
Mais je crois que j'ai créé un lien avec 45 000 personnes. Mais vraiment, quoi. Je pense que j'ai un truc très particulier et un lien avec elles très particulier et qu'elles ont un lien avec moi très particulier et que ce bouquin, on l'a attendu ensemble.
Oui, puis en témoigne, là, on est dans ton bureau, dans ta boutique.
Ouais.
Et là, il y a deux clients qui viennent, une cliente qui vient de passer en disant, ça fait bizarre de vous voir en vrai, parce que pour le coup, il y a une espèce de lien, comme tu viens de le dire.
Ouais. Elle dit ça, et puis en même temps, elles disent toujours, mais on a l'impression de vous connaître.
Ouais. C'est assez drôle. Alors, il y a rien à voir. Il y a beaucoup de sexe dans ce livre. Parfois des scènes crues, parfois des scènes poétiques, comme une pulsion physique permanente, comme une envie obsessionnelle un peu de l'autre. Presque comme si ça définissait la relation. Alors, quelle part a le désir justement dans une relation et peut-être en l'occurrence dans celle-ci?
Moi, le désir, enfin, alors...
Le désir charnel, évidemment.
Ouais, bien sûr. Le désir général dans une relation, il est essentiel. Enfin, je crois que... Enfin, moi, j'ai du mal à croire... Enfin, j'ai du mal à comprendre ceux qui disent on peut avoir une histoire d'amour platonique. Moi, je sais pas faire une histoire d'amour sans cul. Je sais pas faire et je sais pas faire du cul sans amour. Donc, finalement, ça tombe bien. Ça va assez bien ensemble.
Félicitations.
Mais... non, mais après, chacun vit le cul comme il veut.
Bien
mais
sûr,
en tout cas, moi, je sais pas faire autrement. Mais... moi j'avais aussi envie d'écrire comme ça, c'est-à-dire que même si on dit qu'il y a du cul aujourd'hui dans la littérature, moi tous les bouquins que je lis, sans les choisir pour ça, les bouquins que je lis très souvent, les personnages ils se couchent le soir, ils s'embrassent et la ligne suivante, ils se réveillent le matin et ils vont tellement bien.
Ouais,
on se dit d'accord, mais putain il s'est passé quoi entre les deux?
Et
entre
pas
les
tous
deux
dormi,
on
quoi.
Ne sait pas. Donc, ok, alors on dit, ouais, mais c'est le pouvoir de l'imagination. Et non, quoi. Et du coup, moi, j'avais envie d'écrire ça et j'avais aussi envie justement, alors là, au niveau du travail d'écriture, de voir si c'était possible d'arriver à écrire avec mon style d'écriture à moi, qui est un style assez brut, assez saccadé, assez... assez court et oui assez ouais, abrupt et est-ce qu'on pouvait faire passer par les mots ce désir-là sans qu'il devienne ou obscène ou qu'on ait l'impression ouais, que c'était du voyeurisme ou voilà. Et quand le livre est sorti, c'était une de mes craintes. Une de mes craintes, ouais. C'était qu'on dise ah ouais, c'est du 50 nuances degrés. Alors je dis, c'est pas du tout du 50 nuances. Enfin, si maintenant, à chaque fois qu'on met dans un ouais, bouquin que deux personnages font l'amour et qu'ils jouissent, ça devient 50 nuances degrés, on va s'ennuyer quand même, quoi. Voilà. Et c'est pas du tout ce qui en est ressorti. C'est-à-dire que j'ai pas du tout eu, à part un ou deux messages de lecteurs ou de lectrices qui m'ont dit, oh, moi, il y a trop de fesses pour moi. Mais franchement, c'est une ultra, ultra minorité.
Oui, je suis pas d'accord non plus.
Et
mais...
en fait.
C'est normal, ça fait partie du jeu. Hein.
Ouais, mais en fait, c'est pour ça aussi que je disais que ce bouquin, il va bien dans cette époque et qu'il aurait peut-être été moins bien il y a 15 ans, quoi. Ouais. C'est que je pense que. Aujourd'hui, il n'y a pas, c'est même plus une histoire de tabou, mais en tout cas, je pense que la femme a une sexualité totalement assumée, avérée, et que c'est plus un sujet. Mais oui, je me voyais mal écrire une passion sans écrire aussi ce désir charnel et physique qui les lie, quoi, les deux personnages.
C'est de l'amour, en l'occurrence. Et justement, l'amour, c'est un peu une religion pour toi, si on en croit les remerciements. Je cite les remerciements. Rien n'est plus beau que d'aimer follement, intensément, passionnément. Ça fait un peu Annie Girardot dans son discours au César. Mais on dirait du coup que l'amour pour toi, c'est quelque chose qui.
Il n'y a que ça de vrai en fait, non ? Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi ? Qu'est-ce qu'on se fait chier ? Alors moi, quand je vois. Et puis en plus, attention, ça peut être totalement différentes formes d'amour. C'est-à-dire que moi, j'ai un amour inconditionnel et complètement délirant pour mon fils que j'aime profondément et qui est le soleil de ma vie, donc c'est une certaine forme d'amour et qui est d'ailleurs le premier à qui je lui aurais dédicacé. Et d'ailleurs je lui dis sur la première page du livre, si je ne devais t'apprendre qu'une seule chose, c'est que rien n'est plus beau que d'aimer. Et alors quand il a lu la dédicace, il a 11 ans, donc il en a absolument rien à cirer. Je lui dis non mais quand même. Je dis bon ok, tu comprendras plus tard, chérie. Mais il y a ça, et puis il y a l'amour qu'on éprouve pour la personne avec qui on est. Et moi, c'est peut-être pour ça que je suis toujours pas mariée à 46 ans et que j'ai des histoires qui foirent à chaque fois, mais parce que je crois que je ne me résolverai jamais à avoir un amour qui n'en est pas vraiment un, quoi. Okay. Ou à être dans une relation où il n'y a pas cette espèce d'amour qui fait que quand vous voyez l'autre, vous savez plus trop où vous habitez. Et c'est vrai que, on peut quand même dire que même si on est dans une société où il y a une certaine liberté, où maintenant on fait ce qu'on veut, les gens peuvent divorcer s'ils le souhaitent et qu'ils sont chacun maître de leur vie, on a, je pense, quand même tous autour de nous des exemples de gens qui sont ensemble depuis très longtemps, ou pas d'ailleurs, et qu'on voit et on se dit oh, « mais qu'est-ce que c'est triste !» Mais il n'y a pas un geste d'amour, mais il n'y a pas un geste de tendresse, mais qu'est-ce qui s'emmerde Et voilà. Et donc moi, ce n'est pas ma religion.
C'est pas ta religion.
Pas celle-là, non, clairement pas. Donc oui, c'est une histoire d'amour. Et le deuxième sera aussi une histoire d'amour, d'ailleurs. Et en fait, et on m'a dit, mais pourquoi ? Je dis, mais parce qu'en fait, le reste m'emmerde.
Voilà. Ok. Donc qui va ressembler, j'allais te demander à quoi va ressembler le deuxième.
Ça sera aussi une histoire d'amour, ouais. Alors qui sera plus ouverte sur la société avec un changement de vie, parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Donc du coup, il y aura une trame de changement de vie et que effectivement le personnage principal sera une femme de 45 ans. Donc là aussi, je puise dans ce que je vis, mais ça sera une histoire d'amour parce que d'abord je sais rien faire d'autre. Et puis, j'ai rien envie de faire d'autre. Et puis, j'ai pas envie d'écrire un roman historique, j'ai pas envie d'écrire une biographie, j'ai pas envie. Enfin, voilà, moi, le seul truc qui me fait triper, c'est les histoires d'amour. Donc, j'écris des histoires d'amour. Et puis, si un jour on me dit, non, mais vous êtes un écrivain histoire d'amour, je dirais, bah ouais, mais c'est bien en fait.
Ça me va.
Ouais.
Justement, l'amour, il passe énormément par le virtuel dans ce roman, à travers les messages qui s'envoient. C'est un peu leur lien principal. C'est presque comme un personnage à part entière. Qu'est-ce que ça a changé, les nouvelles technologies, dans la construction d'une passion, d'une histoire d'amour ?
Je crois que ça a ramené du romantisme.
C'est vrai ?
Étonnamment, ouais. Parce que finalement, tout le monde dit ça, les réseaux sociaux, ou les SMS, ou les machins, ça désincarne, ça refroidit. Et alors moi, je crois tout l'inverse. C'est-à-dire que je crois qu'on se trompe. On se trompe parce qu'en fait, on critique le support au lieu d'avoir un regard sur le fond, c'est-à-dire sur le contenu.
Ouais.
Et finalement... envoyer une lettre d'amour manuscrite ou envoyer des mots d'amour par SMS, en fait, on s'en fout. L'important, il n'est pas sur le fait que ce soit sur un écran ou que ce soit sur un papier. L'important, il est quels sont les mots que vous utilisez. Ouais. Et du coup, moi, si je joue à la vieille conne et que je reprends mes premières histoires d'amour où il n'y avait pas les SMS et il n'y avait pas les portables. Et, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, sans déconner, j'ai 46 ans, mais moi, quand j'étais jeune, le soir, au collège ou au lycée, quand on voulait envoyer un message à notre amoureux, on faisait une dédicace à la radio. On appelait la radio et on disait « je voudrais dédicacer telle chanson ». Et avec « pour Jacques-Olivier, vivement demain ». Et on priait pour que le mec, il la retienne et qu'il passe la chanson avec la dédicace, quoi. Non, mais c'est quand même pas... Et sans déconner, c'est pas le siècle dernier, quand même. Et du coup, maintenant, on peut s'envoyer des SMS. Et sans déconner, c'est magique. Ça a réhabilité la langue française. Ouais. Je pense que ça a réhabilité l'orthographe. Parce que quand vous envoyez des mots d'amour à quelqu'un, vous êtes quand même un peu obligé de faire gaffe à la façon dont vous écrivez. Et du coup, je pense que ça fait revenir dans les histoires d'amour les lettres d'amour, quoi. Et je trouve que c'est super romantique. Donc okay. Moi, je trouve que le virtuel, en tant que support technique à l'amour, est un truc qui, au contraire, a fait revenir du romantisme dans les histoires. Et ne les désincarne pas du tout, ne les tue pas du tout, bien au contraire.
C'est intéressant comme position. Alors moi, je pense que je peux me proclamer grand lecteur. Donc j'en lis pas mal des bouquins. Et ça aurait pu être un roman, on en parlait tout à l'heure, un roman un peu mièvre avec des élucubrations d'amoureux, tu sais, qu'on peut vivre, mais qui en littérature sont souvent très, très risqués. Il aurait pu avoir tout ça, mais en fait, la position du narrateur, qui est extérieur, mais en même temps qui est omniscient, vient sauver ce potentiel écueil, si bien qu'il y a comme deux strates de lecture. Il y a ce qu'on voit de loin, et il y a ce qui se passe de l'intérieur, c'est le principe même du narrateur omniscient. Tu as pensé à cette mièvrerie, à ce risque de faire une histoire un peu à l'eau de rose à laquelle on croit pas, sans révéler la fin, évidemment, mais... Ouais, c'est parce que c'est quand même facile avec ce type d'histoire, tu sais,
de tomber dans le roman de gare.
Oui, j'avais pas pensé à cette expression.
Mais j'adore, moi, être un roman de gare.
Et d'ailleurs, justement, moi, je trouve que ça en est pas
un. Alors moi, je trouve que c'est un roman de gare. J'assume complètement le fait que ce soit un roman de gare. Parce qu'en fait, au début, quand il est sorti le 22 août, vu que c'était un premier roman, il est sorti à 800 exemplaires, c'était impossible de le trouver, c'était une vraie galère. Il était nulle part, en fait. En gros, par Amazon, c'était une tannée. Et puis, vu qu'il a très très bien marché, maintenant, il est partout et il est dans les gares. Et j'ai râlé pendant les 15 premiers jours en disant il est pas dans les gares, je veux que ce livre soit dans les gares.
Et pourquoi ?
Et parce que j'adore, moi, quand je prends le train pour aller quelque part, d'abord, le train, c'est le seul endroit où vous avez pas votre portable, globalement. Ouais. Et vous le mettez vraiment sur silence. Ouais. Le train et l'avion. Vous le mettez vraiment sur silence. D'abord, les trois quarts du temps, ça passe pas dans les trains. Vous êtes au bout du monde, en France. Et donc, au fond de la France, il n'y a pas de réseau. Et du coup, c'est les seuls endroits, l'avion et le train, où vous êtes déconnecté de votre portable. Et donc, si vous commencez à lire un livre, vous n'êtes qu'au livre. Et à rien d'autre.
OK.
Et du coup, j'adore l'idée qu'on achète ce livre dans une gare, vu qu'il se lit assez rapidement. On achète ce livre dans une gare et on le lit dans un train avec un portable qui ne fonctionne pas et où vous allez plonger dedans parce que vous n'avez rien d'autre à faire.
Et ce qui le rend aussi populaire au sens positif du terme, bien sûr. Mais...
ce qui le rend hyper populaire. Et ensuite, j'ai pensé à ça et je me suis dit... Il y a un côté très romantique à l'eau de rose, mais d'abord je suis une éternelle romantique. Et puis en plus, je crois que à quelques exceptions près... en fait, tout le monde l'est. Et que même si tout le monde ne se l'avoue pas, c'est-à-dire que en fait, tout le monde est capable d'écrire les messages qui sont dans ce bouquin. Même le mec, parce que j'ai eu aussi plein de retours de lecteurs, j'ai pas eu des retours que de lectrices, et j'ai eu plein de retours de lecteurs qui ont adoré. Et ils m'ont pas dit « Ah, c'est cucul la praline ». Même pas du tout, parce qu'en fait, les mecs, où ils ont vécu des histoires comme ça, ils ont envoyé des messages très romantiques. Et donc, ils sont rentrés dedans parce qu'ils savent qu'eux sont capables de le faire. Ou bien ils ont jamais vécu d'histoire comme ça. Mais en fait, moi, je connais aucun mec sur cette terre et aucune nana sur cette terre qui n'aurait pas envie de recevoir les messages que reçoivent les personnages de ce bouquin. Donc, c'est un livre romantique, c'est une histoire d'amour. Après, il y en a qui passeront à côté. Hein.
Bien sûr.
Il y en a qui diront, c'est pas mon truc. Ouais. Voilà, et on peut pas plaire à tout le monde. Mais finalement, je crois que c'était une façon d'assumer le fait que des trucs qui peuvent paraître cucu au premier degré, en fait, c'est les trucs qui vous font vibrer, quoi.
Ouais, et que tout le monde peut ressentir.
Ouais.
Quel est ton lien avec La femme d'à côté de François Truffaut? Parce que il apparaît à plusieurs reprises dans le livre. Pour resituer à ceux qui ne connaissent pas, c'est un film de François Truffaut qui est sorti en 1981. Et c'est l'histoire d'un couple qui s'installe dans un immeuble. Et il y a déjà
qui n'est pas joué par n'importe qui.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a un autre couple dans cet immeuble. Et Gérard Depardieu tombe amoureux de Fanny Ardant, la voisine qui vient de s'installer. Sauf qu'en fait, ils ont déjà eu une histoire d'amour. Et qu'il faut en avoir une, enfin bref.
Et il y a une espèce d'analogie. D'abord, j'adore Fanny Ardant. Et j'adore la voix de Fanny Ardant. Et
est-ce que tu l'as mis parce qu'il y a une analogie ou tu as.
Pas
tu
du
as
tout. Non, je l'ai mis parce que j'adore ce film. J'adore Truffaut. Alors, c'est marrant parce que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps l'intégrale de Truffaut. Et j'ai commencé à les re-regarder.
En DVD.
Et je me suis dit quand même que ça avait pris un coup. Et
tu penses?
Ouais, là, il y a pas longtemps, là, il y a l'année dernière, et je me suis dit c'est marrant, on est tellement maintenant sous l'emprise des rythmes qui sont beaucoup plus rapides, qu'il y en a quand même qui deviennent un peu plus, enfin, on voit que ça vieillit, quoi. Mais bon, ça reste Truffaut. La femme d'à côté, en plus, c'est un film très particulier. Moi, je l'ai toujours adoré, et puis après, vous puisez aussi des anecdotes dans votre vie personnelle qui font que c'était une anecdote personnelle. Et voilà, mais j'ai un... j'adore ce film. Je trouve que ce film a une puissance incroyable. Et je crois qu'il y a dans le film et dans le livre... Alors, sans me placer au même niveau que Truffaut, hein, parce que je garde les pieds sur terre, mais ce même sentiment d'urgence. Voilà.
Okay. Ce même sentiment d'urgence que retraduit justement la ponctuation qui est assez expressive. Enfin, tu vois, il y a des phrases, on en parlait tout à l'heure, des phrases saccadées, des phrases... courte aussi.
Ouais.
Et justement, la ponctuation, il y a eu un véritable intérêt à cette urgence pour toi.
Ouais. Et je crois que c'est la face. Je crois que mon style d'écriture fait juste peut-être que du coup, malgré le contenu romantique, on ne tombe pas dans le mièvre. Parce que du coup.
Ça faisait partie de ce
que
tu disais.
C'est romantique, mais en fait, oui, il y a cette urgence, il y a cette violence que ressentent les personnages, parce que de toute façon, sur la couverture du livre, c'est marqué « Est-ce que cela pouvait-il finir autrement ?» Donc, il n'y a pas tellement de suspense dès le début sur le fait qu'a priori, ça ne va pas bien se terminer, en tout cas, la question est plus comment est-ce que ça va se terminer, plutôt que est-ce que ça va bien se terminer ou pas. Et je pense que c'est par rapport à ta question de tout à l'heure, ce qui enlève le côté mièvre, c'est que on sent ce truc. Enfin, moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, on le lit comme un thriller. C'est-à-dire que d'abord, on le lit d'une traite. Je pense que 98% des messages ou des lettres de lecteurs que j'ai reçus, tout le monde m'a dit, je l'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter parce que c'est pas possible. Je voulais savoir la fin. Voilà. Et je dis toujours aux gens qui le commencent, qui m'envoient des messages le soir en me disant « je le commence », je dis « j'espère que vous n'avez rien demain ».
Bonne nuit.
Parce que vous allez être hyper fatigué, parce que vous allez vous coucher hyper tard. Et à chaque fois, et l'autre jour, j'ai un pote qui l'a lu et qui m'a envoyé un message en me disant « oh la vache, j'ai fini à 5h du match, je pars bosser, je te déteste ».
Ambiance.
Et voilà. Et je pense qu'on retrouve dans tout ça, enfin, après on retrouve dans les histoires d'adultère sans doute, de toute façon, cette violence et cette urgence, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre... l'histoire va arriver au bout, et on l'a dans le film de Truffaut, et on l'a dans mon livre, et on l'a sans doute dans ces histoires impossibles, et c'est sans doute en partie, et c'est ce qui m'intéressait aussi dans l'histoire impossible et dans l'histoire d'adultère, c'est de voir comment est-ce que deux personnages qui sont dans cette histoire, qui n'ont a priori pas grand chose à y faire au départ, parce qu'ils sont chacun dans une vie bien installée, parce qu'a priori sur le papier ils sont heureux, ce sont deux couples parfaits. Ils vont vivre cette passion. Après, c'est toujours facile. Il y a une vraie analyse des personnages qui fait qu'on comprend pourquoi est-ce qu'ils vont vivre cette passion et ce qui a fait qu'il y avait cette faille ouverte dans laquelle cette histoire pouvait entrer. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer ça. C'était de montrer comment deux personnages qui sont dans une vie installée, qui ont des principes, qui ont des règles morales, qui ont une éducation, qui savent tout à fait distinguer le bien du mal, comment est-ce qu'à un moment... rien n'est plus fort que les sentiments qu'ils peuvent ressentir et qui du coup vont broyer sur leur passage tout ce qu'ils pouvaient avoir de repères, de règles de vie en société, de règles de vie en couple, d'honnêteté vis-à-vis de leurs conjoints respectifs,
tout est chamboulé,
etc.
Ouais. Est-ce que tu as des histoires d'amour qui t'ont inspiré ou qui te marquent dans la vie de tous les jours? Je ne souhaite pas Roméo-Juliette en fiction.
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, Roméo et Juliette, pas du tout.
Oui, non, je dis ça, mais ça peut être juste rien. Sartre et Beauvoir.
Non. Pas tellement. Non, parce que... Alors moi je lis beaucoup, j'ai un problème, j'ai une mémoire de poisson rouge, je me souviens très mal des livres et des films. C'est les deux trucs où c'est catastrophique, c'est-à-dire que je suis capable de racheter un livre, de le commencer et à la troisième, quatrième page me dire mais je l'ai déjà ce bouquin, c'est pas possible.
Même en trois exemplaires.
Et je cherche dans ma bibliothèque et je le retrouve quoi. Donc non, et puis en plus je crois que j'ai un... je suis une littéraire dans le sens où j'adore les mots et j'adore écrire, mais je n'ai pas une... culture intellectuelle qu'ont sans doute d'autres grands intellectuels ou grands écrivains. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est, j'allais dire, c'est la vraie vie. Alors là, après, on peut toujours disserter sur est-ce que la littérature est la vraie vie ou pas, mais moi, je m'inspire beaucoup plus d'histoires qui sont arrivées autour de moi que d'histoires dans les bouquins, quoi.
Okay.
Voilà. Et je trouve souvent... qu'en fait, on n'a rien besoin d'inventer, parce que dans la réalité, il y a tout. On trouve les histoires les plus dingues dans la vraie vie. Quoi. On n'a rien à envier au cinéma ou à la littérature, en fait. Quand on regarde un peu autour de soi et qu'on écoute, et avec ce qu'on vit,
c'est une source inépuisable.
Ouais, c'est clair.
Et bien justement, en parlant de cette source inépuisable qui est la vraie vie, est-ce que tu as eu des retours de lecteurs hyper marquants? Parce que c'est quand même un livre qui fait écho souvent à, on en parlait tout à l'heure, à la vraie vie, pour le coup.
Ouais.
Est-ce que tu as eu des retours de lecteurs qui t'ont complètement soufflé? Parce que c'est quand même un livre où on se dit, putain, jusqu'à quel point les gens peuvent se livrer aussi à moi, quoi.
Oui, alors j'ai eu beaucoup... Alors, j'ai eu des milliers de messages. Donc, on a cherché. Alors, attends, l'idée, c'était de chercher des messages...
Des messages qui t'ont particulièrement marqué de télé.
Alors, par exemple, j'avais celui-là. Donc, elle m'envoie ça à 8h53 p.m., donc à 9h du soir. Page 40, je suis en manque de souffle. Je cours après le temps, après elle, après lui. J'attends un SMS. Je suis là, allongée sur mon lit. Les coups de pied de bébé qui se font sentir. Et pourtant, je suis si loin. Je suis dans cette cour d'immeuble, comme en Italie. Et j'observe ce jeu si intense, cette réalité si puissante. J'y retourne. Merci, Géraldine.
C'est beau.
C'est beau, mais les gens écrivent hyper bien. C'est... Alors, il y en a des plus drôles, pour ne pas les mettre tous dans le même style.
Ouais.
10h30 du matin, donc elle lit à toute heure du jour et de la nuit. Je râle parce que je l'ai débuté, ce livre, que mon frère me demande de venir le rejoindre au bord du lac pour un petit-déj, et que je rêve de pluie et de cheminée pour rester lire la suite. C'est prenant, c'est haut en sentiment, je veux tomber amoureuse de mon voisin. Donc ça, c'était drôle.
On lui souhaite.
Après, il y a celles qui sont vraiment qui me touchent moi, mais voilà, j'en ai une hier, donc c'est pour ça que je vous le sors.
Ouais.
Je te remercie du fond du cœur pour ce livre. C'est impressionnant, tes mots, tes sentiments. Tu es une magnifique personne. Mais celui-là, il est moins intéressant parce que.
Oui, mais il fait plaisir.
Oui, il fait plaisir, mais il est plus. J'ai tellement l'impression de te connaître à travers tes mots. Tu m'as bouleversé pour de vrai. Voilà, c'est ça que je trouve formidable, c'est que quand les livres arrivent à bouleverser. Et puis il y a celui, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, parce que je le donne à chaque fois, mais je crois que c'est un des premiers qui sont arrivés. Et c'est un de ceux, je ne donne évidemment pas son nom, qui m'ont le plus bouleversé, que j'ai gardé, c'était le 22 août à 3h35 du matin, donc en pleine nuit.
Ouais.
Et elle m'a écrit « Bonsoir Géraldine, il est 3h25 et du matin donc, et il y a 60 heures, mon monde s'est écroulé. Mon conjoint m'annonce qu'il ne m'aime plus, après 11 ans de vie commune. C'est un séisme de magnitude 10 qui ne me quitte plus depuis 60 heures. Je suis partie m'isoler seule pendant une semaine en bord de mer. Et là, je lis votre roman. J'en suis au chapitre 15. Je tenais à vous dire merci, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais je devais vous le dire. Vous aurez des centaines de critiques, positives ou négatives, mais dites-vous bien que votre histoire a le pouvoir de soulager, voire de sauver des âmes en détresse. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas oublier ça.
C'est
pas mal, non ?
Très, ouais.
C'est beau, hein.
Très gratifiant déjà, et puis
ouais, et puis bouleversant, quoi. Ouais, c'est bouleversant. Donc voilà, les gens vous envoient quand même des trucs. Enfin, mais je le dis souvent, hein. Je dis que moi, j'ai pris un océan d'amour dans la gueule ce bouquin, et j'ai pris un océan d'amour dans la gueule, vraiment. Donc j'en ai plein. Il y en a où il y a la fin dedans, donc je peux pas dire, mais. Mais...
En tout cas, tu en reçois énormément.
J'en reçois des dizaines et des dizaines. comme ça par jour, quoi. Non, ouais. Mais par jour, c'est un truc complètement délirant.
Ça paraît, parce que... ça paraît fou.
Ouais, ça paraît fou. Alors après, 25 000 bouquins vendus, même s'il n'y en a que 10% qui vous écrivent, ça
t'es
fait
quand même passé au-dessus de
2500.
Hein, t'es quand même passé au-dessus de 2500.
Ouais, à un moment, je suis passée... Enfin, depuis, elle m'a explosé, hein, soyons honnêtes. Depuis, mais voilà, mais...
C'est quand même, pour un premier roman, c'est très chouette.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est très chouette. Non, non, c'est une vraie aventure.
Et justement, est-ce que tu te sens appartenir au monde littéraire?
Non, alors j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Je dois avoir un problème de légitimité ou de confiance ou je sais pas. Non, en fait, j'ai toujours l'impression. Alors, j'ai toujours l'impression de que c'est une imposture si je dis que je suis écrivain. Alors après, j'arrive à assumer auteur. Oui, bien sûr. Alors j'arrive à assumer auteur. J'ai l'impression que ça fait moins.
Ok.
Donc auteur, oui. Dire que je suis auteur, maintenant j'y arrive. Alors je mets auteur à 16 heures. Bon, en fait, non. Je crois que je suis vraiment auteur. Après écrivain, j'ai du mal parce que j'ai toujours l'impression que ça veut dire en gros que je me compare à Zola ou à Balzac ou à Dostoïevski. Moi, je suis une fan de grands classiques. Je me dis, c'est grotesque, Géraldine. Voilà. Même si mon bouquin dans la bibliothèque chez moi est à côté des Zola, Dostoïevski et tout ça.
Ouais, ouais.
Et c'est marrant. Et j'ai discuté avec une écrivain d'ailleurs ce week-end avec qui que j'ai rencontré dimanche soir et qui on a pris un thé. Et elle me dit, mais il y a des bons et des mauvais écrivains. Donc,
se
dire qu'on est écrivain ne veut pas dire qu'on est Tolstoï ou Dostoïevski. Ouais. Je dis, c'est vrai, c'est pas faux. Alors peut-être qu'un jour, peut-être que quand le deuxième sortira,
ça t'apportera une espèce de
légitimité. Je me dirais, bon, c'est plus un accident quand on en sort deux.
Ouais.
Peut-être que là, j'arriverai à dire, je suis écrivain. Okay. Là, j'y arrive encore pas. Mais déjà, j'arrive à dire, je suis auteur, c'est bien.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Et dernière petite question que je pose à tous mes invités, quels sont tes derniers coups de cœur culturels? Pas forcément des nouveautés, bien sûr, mais des trucs que tu as vus, lus, entendus récemment.
Des trucs que j'ai lus, vus, entendus. Alors, lus, c'est très compliqué en ce moment. Je lis que des trucs que j'aime pas.
Eh ben, on embrasse tous les gens que tu as lus.
Et non, alors je sais pas si c'est parce que je suis dans un truc très particulier qui fait que j'arrive pas à aller au bout des choses. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Alors du coup, je peux donner en coup de cœur mes anciens coups de cœur que je n'ai pas lus récemment, mais c'est pas grave. Le dernier des nôtres, qui est un bouquin que j'adore, par exemple, Blonde, que j'adore aussi. Enfin voilà, mais dans les tout derniers que j'ai lus, j'ai pas eu de gros coups de cœur ces derniers temps. Alors musique, moi je passe ma vie en musique et je passe mon temps à avoir un casque sur les oreilles. Donc j'ai redécouvert cette semaine une chanson que j'adore qui parlait d'amour, d'Art Mango, mais avec Ute Limper, donc en duo, qui est génial. J'ai écouté le nouvel album de Delerm qui est sorti hier, sur la première écoute, je me suis dit, je sais pas, et je l'ai réécouté ce matin, et il y a des choses magnifiques. Magnifique, donc il faut l'écouter deux fois.
Je suis assez d'accord.
Ouais, mais bien. J'ai découvert un truc que j'aime bien aussi, que je connaissais pas. C'est un truc qui s'appelle Trio Virette. C'est du jazz contemporain. Ça s'appelle Ivresse. C'est pas mal du tout.
Okay.
Et il y a le dernier d'Ibrahim Alouf, mais moi, je suis une inconditionnelle, donc voilà. Et puis, Sinoche, ce que j'ai vu ces derniers temps, c'était pas bien, donc on oublie. Et et théâtre, j'y suis pas allée là depuis la rentrée.
C'est une très bonne réponse.
Voilà.
Trop bien. Merci beaucoup, Géraldine.
Merci à toi.
Eh bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner au compte Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu, à votre famille, à votre amoureux, à votre amoureuse, à votre voisin. Bref, c'est important, c'est probablement le plus important par ailleurs. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.